Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Un instant suspense. Une balade au milieu des dinosaures avec Stéphane Boutsock. Nous visiterons en avant-première l'exposition Jurassic World, inspirée par l'univers de la saga des films Jurassic Park. Et rendez-vous au 3210 puisque nous vous offrirons des entrées pour aller visiter cette expo qui ouvrira ses portes samedi à la Cité du Cinéma, près de Paris. Dolores Redondo est une star de la littérature en Espagne. Son dernier roman, déjà auréolé du Goncourt espagnol, sort aujourd'hui en France. Bernard Lehu est allé à la rencontre de la romancière en Galice. Confidence et reportage à suivre. Michel Sardou chante une dernière fois ce soir. Nous l'entendrons évoquer ses adieux à la scène dans nos express préparés par Olivia Le Ray. Et puis 10 000 objets emblématiques de l'hôtel Ritz, le mythique palace parisien, sont exposés dans la capitale avant d'être vendus aux enchères. On découvrira ce trésor grâce à Sophie Orange.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Ce thème musical signé John Williams est celui de Jurassic Park, créé au cinéma par Steven Spielberg il y a 25 ans. 4 films au total et bientôt un cinquième qui ont passionné 18 millions de spectateurs rien qu'en France. Stéphane Boutsock, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous avez visité en avant-première l'exposition Jurassic World qui ouvre samedi à la Cité du Cinéma de Saint-Denis avec RTL et qui propose une immersion au milieu des stars de la saga, les dinosaures.
Et comme dans le film, le voyage commence dans un ferry qui vous amène à Isla Nublar, l'île du Costa Rica où le milliardaire John Parker Hammond a pu redonner vie à ces créatures qui peuplaient notre Terre il y a plusieurs centaines de millions d'années. Franchi les portes du parc, nous voici dans la première des 8 salles de l'exposition. Elle s'appelle la Terre des Géants. 2 premiers dinosaures nous accueillent. Un brachiosaure, 3 tonnes, 10 mètres de haut, 20 mètres de long, qui penche son très long cou jusqu'aux visiteurs. Et un autre qui est caché là-bas dans les fourrés. Une ranger nous le présente sur un écran télé.
Ici même, vous allez peut-être rencontrer notre plus jeune Parasaurolophus. Puis-je vous rappeler de garder vos distances? Elle est peut-être magnifique, mais c'est tout de même un animal resté des millions d'années à l'état sauvage. À l'âge adulte, leur crête peut atteindre les 9 pieds, 2, soit 2,7 mètres de long. Mais il y a plus fort. La grande crête du Parasaurolophus suggère qu'elle doit avoir un poids conséquent. Elle est au contraire assez légère grâce à une série de petits tubes reliés à ses narines qui permet de réduire sa masse osseuse.
Alors c'est le double intérêt de cette exposition Jurassic World. Nous faire admirer des dinosaures grandeur nature, des robots animés et sonores dont la peau, je vous promets, les yeux, les mouvements, presque le souffle sont bluffants de vérité, mais aussi donner une mine d'informations sur ces lointains habitants de notre planète grâce à de nombreux panneaux et même des bornes interactives.
Alors on passe à la deuxième salle, c'était pas...
Volontiers, vous me suivez. On entre dans la nurserie des gentils géants, là où une maman pachyrhinosaure et son petit, bon c'est quand même un bestiau d'une tonne, oui, nous attendent dans leur enclos. On est à 20 cm d'eux. On peut vraiment admirer la qualité de ces reproductions animées. Moment fascinant, beau, impressionnant. J'ai demandé à Pascal Bernardin, qui est le producteur de l'exposition, de nous expliquer pourquoi ces dinosaures, que l'être humain n'a jamais croisés dans son histoire, continuent autant à nous intéresser.
Moi, je la suis, cette exposition, depuis 3 ans, puisque je suis allé la voir à l'inauguration à Melbourne, où elle a fait 430 000 visiteurs. Elle est allée après à Philadelphie, elle est allée à Chicago. C'est un truc de fou, parce que c'est là où ça doit aller. C'est un peu comme Futuroscope, un peu comme le Disney World. Ça fait partie, c'est des grandes attractions. Et à la fois, on vous raconte une histoire. Dans chaque expo, on doit raconter une histoire. C'est ça la base d'une exposition. Et là, en plus, il y a une interaction qui fait, il y a une immersion qui donne une qualité supplémentaire.
Alors, on poursuit ce parcours. Une troisième salle dédiée au laboratoire Hammond. Là, vous verrez, comme dans les films, les morceaux d'ambre, bah oui, à partir desquels l'ADN des dinosaures a pu être cloné. Et puis, attention, nous voilà arrivés au grand moment de l'exposition Jurassic World. Une Jeep, une cage dans laquelle est enfermée une chèvre convoitée par le plus grand prédateur du Jurassique, le T-Rex, qui soudain jaillit de la forêt pour attaquer sa proie. Scène vraiment bluffante de réalisme dont Pascal Bernardin ne se lasse pas.
Et un dinosaure, quand on regarde, c'est comme toi et moi, ça a des yeux, une bouche, un nez, des oreilles ou à peu près. Comment ça se fait que déjà ils existaient 200 millions d'années avant nous? Donc c'est toute l'histoire de la vie, c'est fascinant l'histoire de l'homme et des dinosaures. Donc on peut en apprendre et quand on fait cette exposition, on se rend compte qu'il y a une scène qui est amusante qui parle de l'imprégnation. C'est quoi? C'est faire en sorte qu'un nouveau dino, il va avoir une famille, comme les êtres humains, on a besoin les uns les autres de se connaître, de se rapprocher, de se sentir et d'apprendre à vivre ensemble. Donc il y a plein, derrière une histoire de dinosaures, on a toute l'histoire de la vie qui peut être racontée. C'est ça qui me plaît.
Alors après ce face-à-face avec le T-Rex, quelle est la suite du programme, Stéphane ?
Un autre enclos où des vélociraptors viendront se frotter aux visiteurs à travers les grilles et puis un détour par la vallée de la gyrosphère où un stégosaure, immense herbivore dont le dos est couvert de pointes, résiste aux assauts d'un Indominus Rex. C'est ce monstre hybride que l'on découvrait dans le film Jurassic World en 2015 et qu'on retrouvera dans Jurassic World Fallen Kingdom, le cinquième de la saga qui sort au mois de juin. Une septième salle vous propose ensuite d'étudier notamment des fossiles avec de véritables zoo de dinosaures. Et enfin, en quittant l'exposition, ça c'est inévitable, vous passerez par la boutique.
Ah bah oui.
C'est la fin du voyage. Des images, des bruits, des sensations vraiment plein les yeux. L'impression d'un voyage dans le temps plus vrai que nature.
Et vous allez maintenant nous donner toutes les infos pratiques pour aller découvrir cette exposition Jurassic World, je le rappelle.
Rendez-vous à la Cité du Cinéma, donc c'est à Saint-Denis, accès par la ligne 13 du métro, c'est le plus simple. Ouais. C'est ouvert tous les jours du 14 avril, donc à partir de samedi jusqu'au 2 septembre, de 10h à 19h. Les prix, 19,90€ pour les adultes, 15,90€ pour les moins de 11 ans. Il y a des tarifs de groupe qui sont possibles. Et puis il y a des audio-guides qui sont également disponibles. Ça coûte 5€ de plus, mais c'est une mine d'infos là aussi.
Et nous vous offrons ce matin sur RTL des entrées, mais ils vont se calmer, c'est
bah non, vous qu'ils se calment pas, ils se calment pas,
ils sont brillants. Pour aller découvrir cette exposition à la date de votre choix, mes enfants, 4 entrées par gagnant, à condition évidemment de répondre à cette question que vous pose Stéphane.
Comment s'appelle le premier dinosaure que vous verrez en entrant dans l'exposition? On le surnomme le long cou. Est-ce que c'est le T-Rex ou est-ce que c'est le Brachiosaur?
J'ai ma petite idée et on attend votre réponse au 3210. Dans un instant, nos express du jour avec Olivia Leray. Il sera notamment question de Michel Sardou et de son dernier concert ce soir à Boulogne-Billancourt.
RTL Matin, laissez-vous tenter 9h07.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
les express LVT.
9h10, nos express du jour présentés par Olivia Leray. Bonjour Olivia.
Bonjour à tous.
Michel Sardou donne ce soir l'ultime concert de sa vie. Ça se passera à la scène musicale près de Paris.
Oui, après avoir vendu 300 000 exemplaires de son dernier album et réuni près de 400 000 spectateurs dans les salles, Michel Sardou clôture sa tournée d'adieu intitulée La Dernière Danse. Il met un terme à sa carrière de chanteur, mais pas d'acteur, il le disait à Stephen Bellery en octobre 2017.
J'ai pas l'impression de quitter ce métier et d'aller me foutre sur une saison ou à la pêche, pas du tout. Je suis pas le genre de mec à tomber en sanglots quand je quitte quelque chose. Bon, je crois que j'ai fait suffisamment mon boulot, je me fais plaisir, je retourne à mes premières amours parce que j'ai commencé moi par le théâtre. Écoutez, j'ai 70 piges, je vais pas leur chanter, je vais t'aimer jusqu'à 83 ans. Ça serait prétentieux d'abord. C'est ridicule. Chaque disque que je faisais, je disais c'est le dernier. Ça a marché 10 ans. Au bout de 10 ans, j'ai dit bon là, ça va être la fin des haricots. Ça marchait pas, puis ça a marché encore 10 ans. Ça s'est enchaîné de cette façon sans vraiment que je m'accroche, quoi, sans vraiment que je combatte.
Quant à l'image que l'on donne de moi, la gueule, Marie fidèle, etc.
J'ai eu plein d'emmerdements. Et je suis encore content d'avoir ces emmerdements. Bon, comme tout ce que j'ai eu, à chaque fois que je chantais une chanson, c'était polémique, c'était ceci. C'était l'époque des années 70, où c'était la mode d'être manichéen. Donc j'étais considéré comme le diable. Ouais, j'adorais ça.
Là-bas, au Connemara, on sait.
Alors, donc bah voilà, toujours content, on l'écoute avec plaisir. Alors, dans un mois, tout pile aura lieu la finale de l'Eurovision, ça sera à Lisbonne au Portugal, Olivia.
Et c'est un duo, madame, monsieur, qui défendra nos couleurs avec une chanson sur les migrants baptisée Mercy. C'est Jean-Paul Gaultier, grand fan du concours, qui habillera le duo français pour l'occasion. France 2 l'a annoncé hier. Jean-Paul Gaultier, en exclusivité au micro de Laurent Marsic.
En vérité, j'ai été très sensible à leur look. Eux habillés, tout, col roulé noir, avec chacun un pantalon, mais très sobre, très chic, très élégant, très parisien. Alors du coup, ça m'a donné même envie, je leur ai demandé de les habiller. Je ne fais jamais ça, mais là, j'ai eu très envie de participer parce que je me suis dit, au moins, certains qui vraiment ont un sens et n'ont pas peur d'aller, au lieu de porter, je ne sais pas, mettons, la robe sexy habituelle ou d'une extravagance et tout, et bien là, un truc très rigoureux et tout. Et donc, ils m'ont dit, et ben, avec plaisir, et donc, c'est moi qui ai le plaisir, tous les cas, de leur faire leur tenue. Donc, du coup, si vous voulez, je suis resté dans, au contraire, l'image qu'ils ont voulu montrer, la continuer en la rajoutant ma Gaultier Touch.
La Gaultier Touch, présentée par lui-même. Alors, la sortie ciné événement d'hier, c'était Taxi 5, bien entendu. On vous en a beaucoup parlé avec Stéphane sur notre antenne. Olivia, est-ce que les spectateurs étaient au rendez-vous?
Vous savez quoi? C'est Luc Besson qui vous donne la réponse.
Donc, au total, France, nous avons un total de 320 904.
320 915 spectateurs. Petite précision, le total définitif de cette première journée ne sera connu qu'à la mi-journée parce que cette nuit, il y a eu un bug informatique qui a empêché un comptage complet.
Donc ça sera plus.
Pardonnez-moi, c'est ce qu'on appelle un très bon départ.
C'est un très très beau démarrage.
Mais toujours du cinéma, si je peux me permettre.
Mais permettez-vous.
À 11h, à l'UGC Normandie des Champs-Élysées sera dévoilée la sélection officielle du prochain Festival de Cannes qu'on va suivre avec vous. Thierry Frémaux, le délégué général du festival, va annoncer la plupart des films en compétition à partir du 9 mai. Et on l'a appris hier, aucun long métrage Netflix ne sera de la partie. Les films sans distribution en salle en France sont désormais exclus de la compétition. Netflix a donc décidé le boycott. C'est compliqué.
Aussi, ça m'arrive aussi, Netflix.
Tirée de Pierrot le Fou avec Belmondo, Anna Karina. Sublime affiche, un baiser dans une voiture. Magnifique.
Généralement, leurs affiches sont pas mal du tout. Merci beaucoup, Olivia Loret. Bernard Lehu, vous nous invitez à un voyage en Espagne, en Galice plus précisément. Vous avez rencontré la romancière Dolores Redondo, star de la littérature ibérique.
Oui, on lui doit la trilogie du Bastan, une excellente série de polars au Pays Basque qui a connu également un joli succès en France. Avec son dernier roman, Tout cela je te le donnerai, Dolores Redondo est donc devenue une grande d'Espagne, l'auteur la plus lue l'an dernier de l'autre côté des Pyrénées, et son livre a été récompensé par le prix Planeta, le Goncourt espagnol.
Et tout cela, je te le donnerai, paraît aujourd'hui, même en France, aux éditions Fleuve, toujours dans la même veine policière.
Oui, mais c'est aussi bien plus que ça, un roman puissant sur les secrets de famille et le conflit entre tradition et modernité. Un matin, à Madrid, Manuel, écrivain homosexuel à succès, est réveillé par deux policiers venus lui annoncer la mort de son mari, Alvaro, sur une route de Galice, au nord-ouest de l'Espagne. Alors, et c'est là où est le problème, qu'il était censé se trouver à des centaines de kilomètres de là, à Barcelone. À la douleur de Manuel s'ajoute la stupeur de découvrir que l'homme qu'il aimait lui mentait et menait une double vie, Dolores Redondo.
Bien sûr, c'est pratiquement la formule classique d'Agatha Christie. Partir d'un secret, d'un héritage mystérieux ou d'un testament perdu, l'un des grands classiques de la romancière britannique. Mais je voulais plutôt m'intéresser aux secrets qu'il peut y avoir au sein d'un couple, avec une question que j'ai toujours en tête. À quel point connaissons-nous vraiment la personne qui dort à nos côtés?
Bon, alors, que cachait Alvaro, son conjoint Manuel?
Ses origines, héritier d'une vieille famille noble de Galice, les Moniz des Davila, dont il gérait les affaires depuis la mort de son père, qu'il avait rejeté en raison de son homosexualité. Manuel va donc découvrir sa belle famille, hostile et confite dans un conservatisme d'un autre âge. Il découvre aussi la vallée où les Moniz des Davila ont bâti leur fortune, la Ribera Sacra, aux pentes vertigineuses, couverte d'un vignoble spectaculaire, je ne sais pas si vous le connaissez, Yves.
Du tout.
Unique au monde, où la viticulture tient de l'alpinisme, de l'héroïsme, un cadre à couper le souffle que nous fait visiter Dolores Redondo.
Nous sommes au cœur de la Ribera Sacra, dont Bélézar est sans doute l'un des lieux les plus emblématiques. On travaille la vigne dans de nombreuses régions, mais pour moi, celle-ci est très particulière. Le spectacle de cette montagne, cultivée depuis des siècles, les petites exploitations viticoles et les plus grandes, le travail des hommes intimement liés à la terre, qui exige tant de sacrifices. Cette viticulteur héroïque, comme on l'appelle ici, est le cœur même de la Galice, le cœur même de la Ribera Sacra. On entend l'eau descendre de la montagne. Elle est vitale pour la vigne et constitue le mode de vie des habitants. En arrivant ici, je suis tombée éperdument amoureuse. En premier lieu de l'abnégation de ces gens qui ont perpétué cette tradition viticole bien avant l'obtention de l'appellation d'origine protégée. Aujourd'hui, tout semble très bien fonctionner. Le vin a acquis une notoriété mondiale, mais pendant des siècles, les hommes se sont battus pour travailler cette terre.
Bon, alors dites-nous tout. Est-ce que vous avez goûté vin de la Ribera Sacra avec modération, bien sûr, parce que nous sommes contraints d'ajouter cette formule.
Excellent, je dois le dire. En rouge comme en blanc. Bon, sérieusement, Dolores Redondo... Oui, les deux. Dolores Redondo fait aussi, il faut insister là-dessus, de son roman une affaire de lieu. Vous l'avez compris, un passionnant voyage des paysages impressionnants de la Ribera Sacra à l'intimidant et mystérieux palais des Muniz, des Davila, notamment sa chapelle.
J'ai choisi d'en parler car il était d'usage que tous les grands domaines praticiens de la région possèdent au moins une petite chapelle comme celle où nous sommes. Dans certains villages, c'est même l'église principale, la plus grande et la plus belle. C'était là qu'étaient célébrés les mariages et bien sûr les funérailles. La chapelle est un élément central du livre. J'ai voulu donner à voir la puissance de cette famille, mais aussi la transgression que représente le fait qu'elle soit un lieu de rendez-vous pour deux personnages essentiels du roman et pour d'autres raisons que les lecteurs découvriront.
Et oui, tout cela, je te le donnerai. Le roman de Dolores, c'est aussi et d'abord un palpitant thriller, ne l'oublions pas. Et si la mort d'Alvaro, l'héritier des Muniz des Davila, n'était pas un simple accident de la route? Son compagnon Manuel se lance dans une enquête pleine de rebondissements avec l'aide du lieutenant Noguera, flic mémorable, un dur au cœur tendre. Et la clé de l'énigme, ils la trouveront dans le passé de la victime et les pires turpitudes du clergé espagnol.
Dos vertientes distintas. Dans ce livre, j'ai voulu aborder l'un des plus grands drames qu'a connu l'Église ces dernières années, qui est la pédophilie. C'est une douleur profonde pour tous les catholiques dont je suis. Mais je voulais aussi évoquer la nécessité, comme dit le pape, de nettoyer l'Église. C'est pourquoi j'ai voulu montrer ces deux versants. D'une part, ce passé obscur qu'incarne l'abbé du séminaire. Il savait qu'il se passait des choses terribles derrière ces murs et n'a rien fait pour les arrêter. D'autre part, le père Lucas, qui représente cette nouvelle génération de prêtres qui accueillent, aiment et respectent vraiment les fidèles qui viennent à eux.
Alors, la vérité triomphera, bien sûr, à la fin de tout cela, je te le donnerai. Dolores Redondo signe un grand roman à l'écriture généreuse sur le secret, la cupidité, l'Espagne d'hier et celle d'aujourd'hui, mais aussi le sens de l'honneur, la transmission, l'amour, sans oublier donc la beauté méconnue de cette terre de Galice, d'où la romancière espagnole nous adresse un dernier message.
Je salue tous les lecteurs français. J'espère que, comme moi, ils tomberont amoureux de cette terre et qu'ils trouveront dans ses racines ce que j'ai pu y trouver.
Muchas gracias. Alors tout cela, je te le donnerai. Paraît donc aujourd'hui chez Fleuve Édition, traduit de l'espagnol par Judith Vernon. Il faut toujours citer les traducteurs. Vous avez bien raison, cher Bernard.
Et j'ajoute que l'on doit aussi à Judith Vernon la traduction de l'interview que vous venez entendre de Dolores
Redondo.
À qui notre camarade Odile Pouget, bien sûr, a prêté sa voix française.
Ben c'est parfait. Dans un instant, nous partons au Ritz pour faire quelques courses avec Sophie Orange.
On n'a pas eu un godet du vin, je vous le signale quand même.
Non, n'a rien ramené.
Rien du tout.
Il peut être un peu mesquin parfois.
Oh là là, comment ils sont.
RTL, laissez-vous tenter, 9h20.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
C'est une vente aux enchères hors normes qui aura lieu la semaine prochaine à Paris. Celle de 10 000 meubles et objets du Ritz, le mythique palace parisien. Il a rouvert il y a 2 ans après d'énormes travaux. Une partie des collections n'y a pas trouvé sa place. Et ces pièces emblématiques sont présentées aux potentiels acheteurs à partir de ce matin chez Arcturial. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour à tous.
Faites-nous découvrir en avant-première cette gigantesque caverne d'Ali Baba.
Plongée extraordinaire dans 120 ans d'histoire, date de l'ouverture de l'hôtel par César Ritz en 1898.
Pour l'occasion, la maison d'enchères a fait les choses en grand puisqu'elle a confié au décorateur Vincent Daré le soin de mettre en scène ces objets mythiques. Il a reconstitué une dizaine de chambres, la chambre de Coco Chanel, le jardin d'hiver, le salon Marcel Proust, le célèbre bar Hemingway, le tout au siège d'Arcurial, rond-point des Champs-Élysées. C'est vraiment un mini Ritz que vous pouvez visiter jusqu'à dimanche pour repérer ce que vous voulez acheter ou alors simplement le plaisir des yeux. Sur les 10 000 objets à la vente, 15% seulement sont présentés. Des canapés moelleux et confortables, des rideaux chatoyants et soyeux, de la vaisselle raffinée, des miroirs de toutes les formes, une harpe, des lustres. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Pour vous, Yves, j'ai pensé à un porte-cravate.
Vous êtes très aimable.
Bernard, un tabouret de bar signé Ernest Hemingway.
Je veux bien qu'on échange, si vous voyez ce que je veux dire.
Je pourrais boire le vin de la Ribera Sacra, comme ça.
Stéphane, tapis de la chambre de Lorraine Bacal.
Très bien, je prends.
Et pour vous, Olivia, Caroline, des peignoirs du Ritz, par exemple, un présentoir à menu.
Vendu.
Chariot à fromage.
Oui, oui.
Qui veut le lit de piscine? Qui veut d'une balance du Ritz? Quand même, il faut signer le Ritz. Vous ne savez plus donner de la tête. Posons-nous quelques instants avec Vincent Daré sur le lit de Mademoiselle Chanel, en tout bien, tout honneur, bien sûr.
Évidemment, la tête de lit était celle de la suite Chanel, toutes les petites consoles et le bureau. C'est Paris de rêve, c'est un Paris vraiment du luxe français et un peu mythique, parce que le Ritz, c'est comme la Tour Eiffel.
Mais dites-moi Sophie, comment tous ces objets sont arrivés là?
L'histoire a commencé il y a 6 ans, lorsque le palace propriété du milliardaire égyptien Mohamed Al-Fayed a fermé pour travaux, gigantesque rénovation. Tout a été mis dans des containers stockés dans 2 entrepôts. Sauf qu'en 2016, à la réouverture, seule une partie des meubles a retrouvé la place Vendôme. Le reste, 10 000 pièces donc, sont restées dans des cartons et c'est Arcurial qui est chargé de les vendre aux enchères. 1 an de travail, il a d'abord fallu tout déballer. Sauf que les assiettes n'étaient pas toutes ensemble, les rideaux non plus, les coussins étaient éparpillés, l'abat-jour ici, le pied de lampe là-bas. 10 personnes ont donc travaillé à plein temps pendant 6 mois pour tout étiqueter, tout ranger dans un entrepôt de 2500 m². Il a fallu étiqueter les 10 000 objets à la main, à l'ancienne, les photographier, le tout sous la houlette de Salomé Pirson pour Arcurial.
C'est une vente hors norme. C'est extrêmement rare dans le marché de l'art d'avoir une vente avec autant d'objets et autant de lots. C'est une vente hors norme également parce qu'elle dure 5 jours. Ça, c'est aussi un peu du jamais vu. On n'a pas l'habitude de vendre une histoire aussi importante pour en fait Paris, mais aussi pour l'histoire de l'hôtellerie. Donc c'est une vente qui fait rêver et c'est pour ça qu'elle est hors norme.
Et vous vous rendez compte, ces objets, ils ont une âme, des baisers volés, des affaires conclues, des scènes de ménage, des secrets d'État. Coco Chanel a vécu au Ritz plus de 30 ans, Ernest Hemingway donc y avait ses habitudes, Lady Diana y a vécu ses dernières heures. C'est Maître Tajan qui va tenir le marteau pour les enchères à partir de mardi prochain.
On est là aussi pour témoigner de 120 ans d'histoire d'un palace extraordinaire, reflet du luxe, d'un savoir-faire, d'un savoir-vivre à la française. Un petit morceau de cette histoire, un petit morceau du mythe, du rayonnement de la France. Les gens voudront repartir chez eux avec un petit bout de cette histoire.
Alors, sait-on déjà justement qui va vouloir acheter l'un de ces objets mythiques?
Alors déjà, des décorateurs internationaux charmés par les art déco français. Beaucoup d'Américains sont déjà fait connaître, mais aussi des collectionneurs de palaces, plutôt intéressés par des pièces siglées, le Ritz. Acheteurs aussi des professionnels qui veulent remeubler un hôtel avec des meubles de style. Et puis des particuliers, soit qui veulent remeubler leur propre château, soit parce qu'ils ont un souvenir au Ritz, nuit de noces ou anniversaire de mariage.
Il y a quelques jours, j'ai reçu un mail très charmant d'un monsieur qui s'est fiancé au bar Hemingway et qui souhaite absolument faire une surprise à sa femme. Et il souhaite racheter les bars sur lesquels ils se sont donc demandés en mariage dans ce lieu si iconique de l'hôtel Ritz. Je trouve ça très charmant.
C'est très charmant, effectivement.
Les mises à prix sont volontairement basses, 100 euros, car l'objectif est vraiment de tout vendre. Les estimations au total atteignent 1,5 million d'euros. Les prix vont sûrement s'envoler à partir du mardi 17 avril jusqu'au samedi 21 avril. L'âme du Ritz va sûrement s'envoler sur tous les continent.
Merci beaucoup Sophie Orange. Dans un instant, on se quitte mais avec des cadeaux, je vous le rappelle, pour aller découvrir Jurassic World à Saint-Denis.
RTL, laissez-vous tenter 9h27.
RTL Matin, laissez-vous tenter avec Yves Calvi.
Stéphane Boutsock, comment s'appelle le premier dinosaure que vous verrez en entrant? Je m'adresse à ceux qui vont gagner ces places en dans l'exposition Jurassic World à Saint-Denis. Est-ce qu'on le surnomme le long cou? S'agit-il du T-Rex ou du Brachiosaure?
C'est le Brachiosaure.
Ah ben voilà. Qui penche sa tête vers lui. On se sent tout de suite mieux et très sympathique.
C'est pas le courbétosaure.
Non, ce n'est pas le courbétosaure qui est une autre forme.
J'ai des dinosaures autour de la table.
Ah oui.
Maître de Comon, ça fait, on a l'impression que ça fait.
Ça c'est fait 9 siècles qu'il est là.
Le T-Rex de la défense de l'automobile.
Exactement. Oh, oui. Le PV-tosaure.
C'est Gériatique Park, en fait.
Voilà, exactement.
Qui a dit ça?
C'est très gentil. C'est très
je ne dénonce jamais mes camarades.
C'est très méchant, mais très drôle. Il faut quand même le signaler. Oui. Voilà.
La bon. Vidéo en replay, vous verrez.
On aurait pu aussi parler du pape et dire Jurassic Pape, mais bon, on va arrêter là et on se souhaite une bonne journée.
Ça me semble raisonnable.
Merci beaucoup, en tout cas, et bravo.
Vous écoutez RTL.